de mètres de fil électrique courent dans les murs de nos maisons pour notre confort, nos loisirs et les facilités que la fée électricité nous offre chaque jour. Pourtant, il faut savoir que ces installations électriques peuvent représenter une menace à plus ou moins long terme sur notre santé. En effet, ce sont les champs électromagnétiques, ces ondes invisibles émises par l'électricité, qui sont pour de nombreux chercheurs, médecins et psychologues, cause de troubles neurovégétatifs, de perte du sommeil, d'angoisse, de stress.
Avec plus de 3 milliards de consommateurs à l'échelle de la planète, le téléphone portable est devenu un objet quotidien. Si l'on ajoute le Wi-Fi, les lignes à haute tension, la radio, la télévision, les ondes électromagnétiques aujourd'hui sont partout.
Alors, quelles conséquences ces ondes peuvent-elles avoir sur notre santé? Comment s'en protéger? Et quels sont les débats en cours? C'est ce que nous allons voir avec vous, Michel Rivasi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du CRIREM, le Centre de Recherche et d'Information Indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Vous venez de publier avec Catherine Gauthier et Maxence Layet aux éditions Courrier du Livre « Survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil ». Michel Rivasi, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rayonnement électromagnétique qui nous entoure? Que sait-on de ces ondes?
D'abord, ces ondes, c'est des rayonnements d'énergie, si vous voulez, d'ordre à la fois électrique et magnétique. Avant, il y a une cinquantaine d'années, on n'avait pas toute cette, ce qu'on appelle cette pollution électromagnétique. Vous voyez, ça va des lignes à haute tension, en passant par les hyperfréquences, les micro-ondes, donc tout ce qui touche à la téléphonie mobile, aux micro-ondes qu'on utilise dans sa cuisine, jusqu'à la lumière et au rayonnement gamma. Vous voyez, c'est un spectre très large, et on définit les hyperfréquences par rapport justement aux fréquences. Vous voyez, chaque onde a sa fréquence et sa longueur d'onde. Et ce qui est très caractéristique depuis les années 2000, c'est l'explosion de l'utilisation de la téléphonie mobile. Et on a toujours présenté le téléphone portable comme un objet banal. Vous voyez, c'était la high-tech, c'était le progrès scientifique, etc. Et on s'est aperçu que, en fait, une utilisation intensive du téléphone portable pouvait entraîner des dommages au niveau du cerveau.
Donc c'est dangereux, le téléphone portable?
C'est un objet à risque, c'est dangereux. Et on a émis, et d'ailleurs je renvoie les gens sur le site du CRIREM, hein, www.crirem.org, où on a émis 12 réflexes pour une utilisation raisonnée du portable. Je tiens à dire aux auditeurs, attention. Vous pouvez utiliser le portable. Vous voyez, la position du CRIREM, c'est pas de dire on est contre le portable. À l'heure actuelle, c'est un objet, vous voyez, 56 millions d'abonnés en France.
3 milliards dans le monde.
Donc c'est de dire, vous pouvez utiliser votre portable, mais de façon raisonnée. C'est-à-dire avoir des conversations très courtes. Utiliser le kit oreillette, parce qu'on s'est aperçu en mesurant, vous voyez, parce qu'on fait des mesures au niveau du CRIREM, qu'il y avait un facteur 10 entre le fait de porter son portable sur l'oreille et d'avoir un kit oreillette. De l'utiliser quand il y a toutes les barrettes, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a une bonne émission-réception entre le téléphone et l'antenne, puisque, vous voyez, il y a émission-réception.
Quand on a les 5 ou bâtons, là.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les petites barrettes.
Parce que sinon, ça recherche et c'est là où c'est pas bon.
Parce que là, si vous voulez, la puissance du portable est très importante. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, n'utilisez pas votre portable en voiture. Parce que chaque fois, le portable va chercher l'antenne la plus proche. Et lorsqu'il cherche l'antenne, c'est là où il émet le plus de champs électromagnétiques.
Donc quand on est en mouvement, il émet beaucoup plus.
Et en même temps, dans sa voiture, ça fait cage de Faraday. C'est-à-dire que les rayonnements émis se réfléchissent sur la personne. Et à l'heure actuelle, même les opérateurs commencent à dire, attention, une femme enceinte ne doit pas déposer son portable sur son ventre. Pourquoi? Parce que les champs électromagnétiques agitent les molécules d'eau et peuvent avoir un effet sur le fœtus. Et le fœtus a énormément de cellules en voie de division. Et c'est là où, justement, les effets peuvent être importants sur l'ADN, vous voyez, sur les chromosomes.
On parle des enfants, d'ailleurs, à partir de quel âge il est...
Eh bien, ce que nous, on aimait, ça a été mis aussi par les Anglais, par les Allemands, c'est de dire, n'achetez pas de portable à vos enfants jusqu'à 15 ans. Parce que le cerveau est en voie de division, il y a beaucoup plus d'eau, vous voyez, qu'un adulte en proportion du volume du crâne, et que c'est là où l'agitation des molécules d'eau est plus importante et que ça peut entraîner des problèmes au niveau de l'influx nerveux.
Oui, parce qu'il faut bien expliquer, en fait, quand vous dites agitation des molécules d'eau, c'est quand on se colle le portable sur l'oreille,
oui.
Ça agite les molécules d'eau, et ça fait quoi?
Eh bien, ça peut perturber le métabolisme de la cellule, et il y a eu des études qui ont montré que ça provoquait la production de protéines de stress. Si vous voulez, une autre recommandation que je voudrais faire, qui est simple, c'est lorsque vous faites votre numéro sur votre portable, il y a marqué numérotation, puis ensuite connexion. Eh bien, tant que c'est numérotation, il ne faut pas coller le portable à l'oreille, parce que c'est là où la puissance aussi du portable est la plus forte. Quand vous êtes en connexion, là, vous pouvez le mettre à l'oreille, et le mieux, je vous disais, c'est un kit oreillette. Donc, ça veut dire que, on peut utiliser le portable, mais faites attention, pas au niveau des enfants. Donc là, c'est interdit, les Anglais interdisent. Alors que nous, il a fallu l'intervention de notre ministre, Madame Bachelot. Alors c'est dommage parce que c'était en janvier 2007. Les opérateurs faisaient une publicité pour les parents pour dire achetez un portable à vos enfants. Vous voyez, ils avaient fait un portable, un baby mobile, parce que il y a des enjeux financiers énormes. Et moi, c'est un peu comme le paquet de cigarettes. Plus vous consommez, plus vous avez un risque de cancer. Mais plus vous utilisez un portable, plus vous pouvez déclencher des cancers.
Alors, on dit aussi, il ne faut pas trop, quand on a des boucles d'oreilles, par exemple, ou des lunettes, ça amplifie.
Oui, si vous avez des lunettes métalliques, par exemple, ou si vous avez des boucles d'oreilles métalliques ou des piercings, eh bien, ça amplifie, si vous voulez, le rayonnement au niveau de la peau.
Il y a le débit d'absorption spécifique aussi. Alors, expliquez-nous.
Alors, c'est ce qu'on appelle le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Le DAS, si vous voulez, c'est l'énergie absorbée, donc c'est des watts par kilo, et là, ça protège contre ce qu'on appelle les effets thermiques. Et d'ailleurs, vous le sentez. Au bout d'un moment, quand vous utilisez trop longuement votre portable, vous avez l'oreille qui chauffe. Alors, vous changez de côté, en général. Bon. Mais voyez, on a limité ces effets thermiques. Et c'est 2 watts par kilo. C'est pour ça qu'on recommande aux gens, lorsqu'ils achètent un portable, de prendre le DAS le plus faible possible.
Mais c'est écrit dans la notice ?
Alors, c'est écrit dans la notice. En général, les gens qui vous vendent le portable connaissent même pas le DAS, souvent, parce qu'il n'y a même pas de formation au niveau des vendeurs. Mais là, j'interpelle les gens qui veulent changer de portable. Prenez d'ailleurs un portable pas trop sophistiqué, parce que plus ils sont sophistiqués, plus, alors, il y a le GSM à 900 MHz, plus le Wi-Fi, plus le 3G maintenant, puisque la grande nouveauté, le grand progrès social, ça sera de regarder son match de foot sur le portable. Mais il faut bien faire attention, plus vous allez avoir des données sur votre portable, plus la puissance du portable va être importante, et plus les antennes relais vont déclencher une puissance de champ magnétique très importante. Alors, il y a la pollution choisie, c'est l'utilisation du portable, et la pollution subie, c'est tous les gens qui sont dans le lot principal de l'antenne relais.
Alors justement, oui, pour fonctionner, ces portables ont besoin, vous venez de le dire, d'une antenne relais, et c'est pas sans poser de problème, comme le montre ce reportage de Caroline Lafargue. Caroline a suivi un responsable de l'association Robin des Toits dans le 18e arrondissement de Paris.
Alors, André Bonin, de l'association Robin des Toits, je m'occupe des électro-hypersensibles, où on est obligé de faire des mesures chez les gens qui nous le demandent, qui déclarent des symptômes, et on vient voir à quel type de rayonnement ils sont soumis, et à quelle dose, et depuis combien de temps.
Bonjour. Enchantée. Je m'appelle Karine.
Je viens de Bavière. Et vous habitez dans cet appartement depuis combien de temps?
Depuis 10 ans.
La grosse boîte grise avec des portes sur le toit du bâtiment de l'école, là-bas, sous l'antenne blanche, c'est une armoire technique. C'est ce qui comporte tous les systèmes électroniques et tout ce qui alimente l'antenne relais. D'accord. Voilà.
Mais alors, vous vous sentez comment en ce moment?
J'ai une inflammation de toute la gencive, donc je me sens fébrile. Ça a commencé en fait au mois de novembre. En fait, pendant 3 jours, je travaillais à la maison de ma cuisine et j'ai eu de plus en plus mal à la tête. Et donc, ça devenait vraiment insupportable. Je ne pouvais plus rester assis à travailler. Et c'était la fille de la voisine, en fait, qui travaillait pour l'université pendant 3 jours. Elle utilisait le Wi-Fi jour et nuit.
Donc c'est ici, dans la cuisine, que vous avez le plus de symptômes.
Oui, mais aussi à la fenêtre.
Excusez-moi, je change de pièce, moi.
Oui, oui, oui.
J'ai mal au crâne, là. On va sortir le grillon.
Le grillon, il fait quoi, déjà?
Alors lui, il chante quand il entend des antennes relais.
Ah, là, c'est très net, hein?
Oui, on se balade un peu.
Donc là, on est dans la cuisine.
Ah, on entend un Wi-Fi, voilà, ok. Accompagné d'un DECT. Donc là, les voisins, non seulement faut qu'ils éloignent ou qu'ils débranchent leur Wi-Fi, mais en plus, il y a un téléphone sans fil qui doit être proche du mur aussi, très certainement, et qui, lui, est encore pire. Maintenant, on va mesurer l'intensité du champ électromagnétique en voltmètre avec la sonde isotropique. Donc on a un champ qui n'est pas colossal du tout, qui est entre 0,2 et 0,5 ou 0,6 voltmètres en pointe. Donc même si à travers le mur on mesure en voltmètre peut-être un peu moins, qu'une antenne relais ou qu'un truc très très élevé, on a quand même des symptômes très forts. C'est le plus dégueulasse. C'est l'antenne relais à la maison, en fait. Hein. C'est une antenne et un téléphone au même endroit. Donc, si c'est associé au Wi-Fi, ce qui a l'air d'être le cas, là, c'est en effet un peu assassin.
Il faut dire que mon fils, ici, il fait ses devoirs tout le soir. Hein, au moment où la voisine rentre et met son ordinateur en route. Hein. Mais il s'est plaigné régulièrement de maux de tête. Alors, il a 10 ans.
Et vous, Karine, vous êtes allée voir un médecin? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
J'ai vu un généraliste à qui j'ai décrit aussi les symptômes de fourmillement des mains. Il ne croit pas trop. Enfin, il y a un grand doute.
Tu voulais dire quoi? Je ne sais plus. J'ai des pertes de mémoire aussi, d'ailleurs. Ça me fait assez peur.
Et dans cet immeuble donc où vous habitez, il n'y a personne d'autre qui se plaint de symptômes qui se rapprochent de l'électro-hypersensibilité?
Non, je n'ai pas connaissance. La voisine m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez la guerre? Alors que je n'ai rien demandé. J'ai simplement proposé à lire quelques documents pour la renseigner, pour le bien de tout le monde dans l'immeuble. Elle m'a dit aussi que, apparemment, je vivais encore dans le Moyen-Âge, hein, puisque maintenant, chaque maison est équipée de Wi-Fi et que c'est de l'avenir.
Alors, qu'est-ce que vous allez prendre, vous, comme disposition pour vous protéger un peu?
Disons, je vais essayer de me renseigner.
Sur les protections, là, ce qu'on conseille quand même avec l'association Romain d'Étoile, on travaille plus sur l'information et la mobilisation. Ça veut dire que là, dans le cas où on a, par exemple, une antenne qui pourrait poser problème en face de chez soi, qu'il y a d'autres gens qui sont regroupés autour, bah, c'est préférable de tenter de faire réguler cette installation.
Merci pour la visite. Oui, merci d'être venu.
À bientôt.
À bientôt. Oui.
Michel Rivasi, quelle réflexion vous inspire ce reportage? Faut-il particulièrement se méfier des antennes?
Ben oui, le problème des antennes, c'est un gros problème qui dépasse d'ailleurs la France, qui touche toute l'Europe, parce que nous, en France, on a choisi le fait de mettre des antennes sur les toits. Alors en général, on choisit les offices des HLM, vous voyez, où il y a du locatif, parce que quand on est en copropriété, il suffit qu'il y ait un propriétaire qui s'oppose pour que l'antenne ne s'installe pas. En même temps, les opérateurs louent les toits, et donc c'est de l'ordre de 10 000 à 20 000 euros, donc ça paye les charges, si vous voulez, des propriétaires. Mais si on est dans le lot principal, vous voyez, si on est dans l'axe de l'antenne, là, on est vraiment dans le cas d'une pollution subie. Et il y a des personnes, vous voyez, on ne peut pas généraliser, mais il y a des personnes, comme dans le reportage, qui sont très sensibles à ce champ électromagnétique et qui provoquent ce qu'on appelle un syndrome des micro-ondes. Vous voyez, maux de tête, insomnie, manque de concentration, ils peuvent avoir des problèmes cardiaques, ils peuvent être déprimés, une fatigue intense. Et lorsque ces gens vont voir le médecin, mais le médecin n'est pas formé sur, vous voyez, ce type de santé environnementale. Et donc, il se retrouve tout seul. Alors, ce qui m'a énormément surpris, moi je fais énormément de réunions publiques partout en France, il y a des collectifs de partout, parce que les gens ressentent. D'abord, ils n'ont plus confiance aux organismes officiels, vous voyez, que ce soit l'OMS, que ce soit l'Agence Santé Environnementale. Ils ont subi Tchernobyl, ils ont subi, vous voyez, le mensonge de l'amiante, et ils se disent, là, on ressent des choses et on ne nous dit pas tout. Alors, moi je suis élue aussi à la ville de Valence, et ce qu'on a essayé de faire sur les antennes relais, c'est de dire aux opérateurs, on va protéger les enfants, vous voyez, les écoles, les crèches, et sur un périmètre de 100 mètres. Mais ce qu'il faut faire d'un point de vue législatif, alors en France c'est un peu bloqué parce qu'il y a une espèce de consanguinité entre les partis politiques et les opérateurs. Donc il faut aller à l'échelle européenne, et c'est pour ça d'ailleurs que je me présente au niveau tête de liste dans Europe Écologie, pour me bagarrer sur ce sujet, parce qu'il faut une directive européenne qui harmonise la réglementation et qui demande aux opérateurs, par une réglementation très forte, de diminuer la puissance des antennes. C'est la seule garantie où on peut avoir un téléphone portable, mais avec une puissance qui n'entraîne pas de problèmes sanitaires chez les gens.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, seal it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Technologique.
C'est pas du vent.
Technologique.
Anne-Cécile Bras.
Technologique.
Arnaud Jouve.
Technologique. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, buy it.
mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, flip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, save it, watch it, turn it, leave it, suck on at it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax it, name it, technologic, technologic, technologic.
Daft Punk dans C'est pas du vent sur RFI. L'électro-hypersensibilité, on en parlait là il y a 30 secondes, est une pathologie reconnue en 2004 par l'OMS, le Royaume-Uni et la Suède. D'ailleurs, en Suède, les électrosensibles ne sont pas considérés comme des imposteurs ou des mythomanes. L'État est compréhensif. Et même si la science n'a pas réussi à prouver les nuisances qu'apportent les ondes électromagnétiques, on préfère appliquer un principe de précaution, partant de l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Jean-Paul Pourron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Stockholm. Alors, qu'est-ce qu'on en parle beaucoup en Suède de ces problèmes?
Ben oui, on entend surtout les électro-hypersensibles de temps en temps. D'ailleurs, ils sont organisés en Suède depuis 87. Il existe une association, la FEB, le Förening El och Bildskärmskadade, en clair, l'association des victimes de l'électricité et des ondes d'écran d'ordinateur, qui comprend plus de 3000 adhérents. Et cette association est rattachée à la Confédération des handicapés de Suède. Alors, selon une étude menée en Suède et corroborée par une autre de l'Union européenne, eh bien, 3% de la population suédoise serait électrosensible. L'hypersensibilité est reconnue comme un handicap physique en Suède. Ce statut donne droit à des services de la part de l'État et des communes pour permettre aux électrosensibles eh bien, de vivre autant que faire se peut normalement. Alors on admet donc que ces hypersensibles aux champs magnétiques électriques sont des handicapés sans savoir vraiment pourquoi les ondes incriminées les mettent à mal. Plusieurs organismes d'État ont convenu qu'il fallait prendre des mesures correctives pour réduire l'intensité des champs magnétiques électriques et en particulier l'Institut suédois de protection contre les rayonnements qui demande à ce que le principe de précaution soit respecté, à savoir que l'on réduise les champs magnétiques dans les cas où les niveaux d'exposition dans les installations existantes eh bien, dépassent 10 fois les niveaux naturels. Alors il va sans dire que les producteurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie poussent des cris d'orfraie et expriment un déni retentissant.
Alors que font les communes pour venir en aide aux électro-hypersensibles?
Eh bien, elles prennent en charge une partie de la réhabilitation des appartements, par exemple, en procédant au blindage des fils électriques, en repeignant les pièces avec des peintures spéciales protectrices, en changeant les vitrages avec des films protecteurs. Il s'agit de faire écran le plus possible aux ondes électromagnétiques. Les rideaux sont en coton et fils de cuivre, formant une sorte de bouclier. Les ampoules sont électro-libres d'ondes, les appareils électriques et informatiques aussi. Bref, c'est la chasse systématique aux champs magnétiques. Et pour ceux qui sont vraiment atteints et ne supportent rien, ceux qui sont obligés de se balader avec un casque anti-radiation avec des voilettes qui les protègent des micro-ondes, eh bien ils partent loin de tout, vivent à la bougie et bannissent tout ce qui est électrique. On les appelle les briseurs d'ondes, ils ont aussi une association. Et certaines communes ont fait ériger des villages assainis d'ondes électromagnétiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour y habiter. C'est donc un peu un fiasco. Et je voudrais peut-être aussi ajouter qu'il n'y a pas que les électrosensibles qui s'inquiètent des ondes. Les militaires en Suède font construire de véritables bunkers protégés et certains dirigeants suédois appliquent aussi le principe de précaution. Ainsi, de nombreuses entreprises ont fait récemment refaire entièrement les bureaux de leur direction en les rendant électro-imperméables.
Merci Jean-Paul Pourron. Alors Michel Rivasi, qu'est-ce que vous pensez de tout ce dispositif suédois? C'est intéressant.
Bah écoutez, c'est très intéressant de voir que, un, il y a une prise en compte de l'électrosensibilité. Vous voyez, ces 3%, ça représente à peu près 220 000 personnes. Et les études montrent que plus on va être soumis à une pollution électromagnétique, plus on deviendra électrosensible. Et là, c'est vraiment un cri d'alarme hein, en France, parce qu'on voudrait que les électrosensibles soient reconnus comme en Suède. Hein, il y a deux poids, deux mesures. Hein,
c'est reconnu. Sans parler de tous les pays, on n'en parle même pas.
Exactement. Mmh. En plus, il faut faire une formation au niveau médical. À l'heure actuelle, le professeur Belpomme reçoit des électrosensibles parce qu'il essaie de catégoriser en quelque sorte les symptômes de ces personnes-là, parce que ces personnes, elles vivent le calvaire. Lorsqu'elles vont voir un médecin qui n'est pas sensibilisé, souvent on leur dit, mais allez voir un psychiatre. Vous voyez, il n'y a pas du tout cette prise en compte de cette maladie.
Alors justement, où est-ce qu'on en est sur le plan sanitaire? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui finalement des menaces
Écoutez, à l'heure actuelle, il y a un rapport qui est sorti, c'est Bioinitiative Report, qui a repris à peu près 1500 études, qui a été édité par l'Agence européenne de l'environnement et qui dit à l'heure actuelle on a les preuves. Vous voyez, c'est plus, il faut encore faire des études, etc. On a les preuves que Quand le cerveau est soumis à un champ électromagnétique, d'une part, ce qu'on dit, la barrière hématoencéphalique devient pour eux. C'est-à-dire, c'est une barrière qui évite à ce que des substances toxiques puissent pénétrer au niveau du cerveau. Eh bien, quand un cerveau est soumis à ce champ, il y a une porosité et ces substances peuvent rentrer. Alors, ça pourrait expliquer ces migraines, vous voyez, qu'ont les gens. Il y a aussi, et ça c'était très important, alors il y a eu l'étude réflexe, c'était une étude européenne, plus d'autres études qui ont montré que les champs électromagnétiques pouvaient casser les molécules d'ADN, un brin ou deux brins, et donc ça pourrait initialiser les cancers. Vous voyez, ça pourrait provoquer ces tumeurs au cerveau, que ce soit après une utilisation intensive de téléphone portable ou à proximité d'une antenne relais. Et ça, il y a eu certaines études d'Interphone qui l'ont montré. Et ça montre aussi que ça a une influence sur les hormones, notamment la mélatonine, vous voyez, qui est une hormone qui règle un peu la veille et le sommeil. Ça expliquerait ces insomnies, ce manque de concentration, etc. Donc maintenant, on l'a effectué sur des cellules, on sait que ça provoque aussi des protéines de stress.
Mais alors quand on vous entend là, on a envie de dire, mais c'est incroyable, pourquoi on ne sait pas ça? Pourquoi ça passe pas dans le grand public? Pourquoi est-ce qu'on continue à acheter des téléphones portables sans savoir tous ces dangers-là?
Mais vous savez, en 86, j'ai créé la CRIRAN par rapport au mensonge de Tchernobyl. Ben, j'ai créé le CRIRAN exactement pour cette raison. Parce que le but du CRIRAN, c'est informer, mesurer, protéger. Informer. Quand j'ai vu qu'il y avait plein d'études qui étaient faites en Suède, en Allemagne, en Autriche, etc., ça ne franchissait pas les barrières de la France. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des opérateurs hyper puissants, que ça soit Orange, Bouygues, SFR.
Alors, il y a quand même eu un procès, là. Il y a eu une première mondiale, hein, le 4 février dernier. Bouygues Télécom est obligé de retirer une antenne relais dans le sud de la France.
Parce que pour la première fois, la justice a reconnu ce principe de précaution. Ils ont pris ce rapport bioinitiative. Ils ont dit, mais enfin, on a suffisamment d'éléments de preuve pour dire qu'il peut y avoir un risque. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on applique le principe de précaution. Et, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de normes internationales qui fixent des barèmes, justement, aux opérateurs.
Ah ben,
des
si,
limites.
Il y a des recommandations internationales, mais le problème, c'est qui établit les normes? Et ces recommandations internationales qui sont de l'ordre de 41 volts par mètre, par exemple pour le 900 MHz, et pour le 1800, c'est 58, et pour l'UMTS, la nouvelle génération, c'est 61.
On est perdu déjà là.
Non, mais c'est des normes qui vous grillent le cerveau si jamais vous atteignez ces normes. Oui. Donc, tous les pays, et c'est pour ça que je vous parlais d'une directive européenne, parce que, vous voyez, la Suisse, ils ont établi à 3 volts par mètre. La Belgique, 3 volts, nous, c'est 41. Donc il faut une harmonisation et deux, il y a des moyens techniques. Et je voudrais dire qu'il y a des alternatives. L'alternative, c'est de faire des micros ou des pico-antennes qui émettent une puissance très faible. Ce qui fait que ça permet d'utiliser le téléphone portable et il n'y a pas de souci sanitaire pour les gens. Seulement, les opérateurs refusent de le faire parce que financièrement, ça coûte plus cher. Vous voyez, il faut mettre l'électricité chaque fois à chaque borne. Et encore une fois, on privilégie la finance. Vous voyez, l'argent, par rapport à ces milliards d'utilisateurs de téléphonie mobile, plutôt que l'aspect sanitaire. Donc c'est un cri d'alerte aux gens. Donc utilisez ce portable, mais de façon précautionneuse, en employant tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure.
Merci Michel Rivasi pour toutes ces précisions. Vous reviendrez pour nous documenter sur la suite du dossier. À bientôt.
Merci à vous.
C'est pas du vent.
Bonjour Bruno Rebel.
Bonjour.
Dans la continuité de notre dossier sur les ondes électromagnétiques, vous souhaitiez nous parler des lignes à haute tension.
Oui, ou plutôt du problème que posent les lignes à haute tension, puisque ça fait près de 15 ans que les autorités françaises n'ont pas effectivement construit de nouvelles lignes à haute tension, du fait des difficultés qu'il y a à faire accepter ces infrastructures. On peut parler, par exemple, de cette ligne franco-espagnole qui, depuis plus de 15 ans, doit connecter le réseau français au réseau espagnol pour, au départ, exporter de l'électricité vers l'Espagne. Et maintenant, on en est plutôt à importer de l'électricité espagnole vers la France. Le tracé initial devait passer par la vallée du Louron, en plein centre des Pyrénées. Puis ensuite, on a envisagé un autre tracé plus près de l'Atlantique pour finalement opter faire un tracé plus oriental, alors même qu'on avait pensé passer en voie sous-marine par la Méditerranée. Parce que justement, à chaque fois que ces tracés sont évoqués, il y a des levées de boucliers phénoménales pour ces problèmes de nuisance et de dégradation de l'environnement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre qui posent problème?
Oui, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est la ligne à haute tension qu'il va falloir construire pour écouler l'électricité de la production de ce nouvel EPR, nouveau réacteur nucléaire, dont la construction a été entamée à Flamanville, dans la Manche. Il va falloir là faire plus de 150 km de lignes à très haute tension, et on voit que dès à présent, tous les départements traversés sont vent debout contre cette installation. Et on peut craindre que le réacteur soit fini et donc prêt à exporter, à produire de l'électricité avant même que le premier pylône ait été planté. Et tout cela nous fait simplement penser qu'il serait grand temps de repenser sur le fond la politique énergétique pour sortir de ce modèle hyper centralisé qui impose de faire des lignes à haute tension dont on connaît aujourd'hui les nuisances et d'aller vers un modèle beaucoup plus décentralisé, déconcentré, diversifié, modèle énergétique de demain, mais il ne semble pas que nos politiques aient pensé à cela.
Merci Bruno Rebel.
Demain, nous verrons comment refonder l'économie en tenant compte des ressources naturelles avec l'économiste Jacques Weber et Arnaud Gaussman, porte-parole de France Nature Environnement. Rendez-vous donc demain, même planète, même heure.